Il était sous son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, le 102.2. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Eh ben ouais, c'est notre rentrée. Alors hop, on a tout rangé, on a tout cligné, on s'est bien organisé, on a préparé. Bah ouais, pour être fin, prêt et prête pour cette émission. Et puis contrer la peur de l'imprévu. Bah ouais, c'est rassurant, non? Quand tout est bien classé, quand tout est bien dans des cases, on a l'impression de tout maîtriser. Que tout va bien se passer. Alors on se met dans des cases. Même parfois on a plusieurs cases et dans lesquelles on se répartit dans différentes cases. Et on va bien, on respire, on est content. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces cases, elles ne correspondent plus trop et qu'on a changé ou qu'on n'a plus envie de correspondre à ces cases. Ou que ces cases nous demandent trop et que c'est beaucoup trop radical. Non, on veut pas correspondre à cette case. Alors on a envie de fuir. Ouais, de trouver un ailleurs, autre chose. De pousser les frontières, les limites de cette case, de ces cases. Et justement, aujourd'hui, je suis en compagnie de Demain, nous fuirons. Bonjour les garçons. Donc, dans le studio, il y a Fabien Intenoc.
Bonjour Charlotte.
Bonjour. Virgile Coignard.
Bonjour Charlotte.
Gilles Robin.
Bonjour Charlotte.
Et Alexis Tolombert.
Bonjour Charlotte.
Donc vous avez tous et toutes compris que je m'appelais Charlotte. Donc bienvenue à la Gamelle dans les studios de Radio Canu. Je viens de le dire, je viens de vous présenter Demain nous fuirons. Mais nous fuirons quoi? Qu'est-ce que ce nom de compagnie?
Alors ce nom de compagnie, il vient d'un texte de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle Nous les héros. La compagnie a été créée avec une amie, théâtreuse aussi, qui s'appelle Lucille Marie. Le premier texte qu'on a monté ensemble, c'était ce texte-là de Jean-Luc Lagarce, Nous les héros. Donc on s'est dit que parce qu'on faisait ça ensemble, qu'on créait en binôme cette compagnie, on allait aussi trouver le nom de cette compagnie au cœur de ce texte-là. Et ces trois mots apparaissent sur la quatrième de couverture de cette pièce, éditée au Solitaire Intempestif. Et on a choisi de les utiliser comme nom de compagnie, tout simplement, avec comme phrase d'accroche, quelque chose d'un peu plus long, c'est « Demain nous fuirons peut-être, mais aujourd'hui encore, prenons le temps d'être ensemble ici et d'inventer d'autres possibles. » Voilà, c'est un peu notre slogan.
Très bien. Et vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas une compagnie lyonnaise, d'où est-ce que vous venez?
Nous ne sommes pas d'ici, nous fuyons en effet très régulièrement. On est une compagnie marseillaise, on agit dans la région PACA, mais aussi on part régulièrement dans différentes régions. Avec le projet dont on va parler ensemble, on est parti dans les Charentes, on est parti à Avignon, on est parti à Aubagne. Voilà, on visite des villes différentes pour créer là où on est accueilli, là où on nous reçoit. Et maintenant, ce mois-ci, nous fuyons à Lyon, au Théâtre des Clochards Célestes.
Et vous fuyez pour quel projet ?
On fuit avec le projet qui s'appelle « L'ennemi intérieur ». C'est un texte de Marilyn Mattei, édité au Tapuscrit du Théâtre Ouvert.
Très bien. Eh ben, je vous propose tout de suite d'écouter Marilyn Mattei, l'autrice de ce texte que nous avons rencontré cette semaine au Clochard Céleste.
Avec plaisir.
J'ai commencé l'écriture en arrivant à l'ETSAT, en écriture dramatique. C'est une école de théâtre dans laquelle il y a tous les corps de métier, en passant de l'administration, technicien, comédien, metteur en scène, dramaturge, auteur, directeur technique. Voilà, c'est une des seules écoles avec le TNS, il me semble, où il y a quasiment tous les corps de métier. Avant ça, moi, j'ai fait des études théâtrales et je jouais. Et puis, il est venu un moment où j'avais envie de passer à autre chose. Et dans le cadre de mes études, dans le cadre de mon master à Aix-en-Provence, j'ai écrit un texte, un premier texte de théâtre, et c'est avec ce texte-là que je suis rentrée en fait à l'ENSAT. Donc l'écriture est arrivée très tardivement. En termes de date, on va dire que c'est arrivé en 2011. J'ai commencé à travailler sur la thématique de l'adolescence un peu par hasard, parce que ça n'a été pas une volonté au départ, ça a été une commande de la Mousson d'hiver. Pendant que j'étais à l'ENSAT, on nous a demandé d'écrire un texte à destination des adolescents, un court texte. Et j'ai essayé et j'ai aimé. Et ce que j'ai aimé, notamment, c'était la rencontre après avec eux et de voir comment ils pouvaient recevoir un texte, les questions que ça pouvait leur poser, le dialogue possible qu'il y avait avec ce type d'écriture. Et j'ai décidé de creuser un peu cette chose-là. Donc, au cours de mes 3 années à l'ENSAT, j'ai créé un triptyque autour de l'adolescence qui mêle la question du deuil, la question du groupe, la question de l'avenir aussi. Et depuis, c'est quelque chose qui ne m'a jamais lâché. Alors, après, je ne suis pas la mieux pour définir mon travail, dans le sens où ce n'est pas moi qui décide si c'est pour les adolescents ou pas. C'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un au-dessus de moi, c'est les institutions, par exemple. Donc moi, j'aimerais que les adolescents aient accès à mes textes beaucoup plus souvent. Mais il s'avère que par rapport aux thématiques que je mets en place dans mon travail d'écriture, parfois, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, l'ennemi intérieur, je me suis dit, je veux parler du radicalisme et je veux que ce soit à destination des adolescents. Et donc, je me suis interrogée de comment je pouvais y arriver. C'est un projet qui est né grâce au festival En Acte. C'est un festival d'écriture contemporaine à Lyon, créé par la compagnie L'Accord de Rêve, et qui permet de favoriser la rencontre entre un metteur en scène et un auteur. Avec quand même une commande très précise, où il faut écrire pendant on a un mois et demi d'écriture, enfin quelque chose d'assez court, et ça doit durer une heure au plateau pour 5 comédiens maximum, sans régie son, sans régie lumière. Et ce cadre-là m'a permis d'écrire un ami intérieur, parce qu'au départ, je voulais écrire sur ceux qui partaient rejoindre le Djihad. Et puis avec tous les événements qu'il y a pu avoir en France, ça devenait impossible. Ça devenait impossible parce que trop frais, impossible aussi parce qu'il y avait quelque chose peut-être à l'intérieur d'opportuniste. Souvent, on a ce truc-là, donc ça risque d'être à la mode parce qu'un drame vient de se produire. Et puis, il y a aussi cette chose-là où j'avais pas envie qu'on dise de ce que je fais, que je marche sur les cadavres et de savoir aussi si j'avais le droit de le faire. Et donc là, j'ai fait pas mal de recherches. Enfin, j'avais déjà fait pas mal de recherches auparavant. C'est fait depuis 2014 que je cherchais des choses. Et puis, j'ai lu Martyr de Mayenburg, qui est un texte d'un auteur allemand qui met en scène la crise mystique d'un adolescent qui s'appelle Benjamin, mais autour de la religion catholique. Donc, il ne fait que citer la Bible. J'avais trouvé ce texte très, très intelligent parce que ça travaille sur le détour. C'est-à-dire que lui se radicalise, mais avec une religion qui est, entre guillemets, la nôtre, voilà, qui n'est pas celui d'étranger. Je me suis dit, bon, lui, il a trouvé un pas de côté hyper intéressant, malin, et donc il va falloir que je trouve le mien. Et en faisant des recherches et puis en me remettant dans le contexte des attentats, et il y a eu cette phrase d'Emmanuel Valls qui m'a marquée, qui a été « Nous sommes en guerre ». Et cette phrase-là, je me suis dit « Ok, nous sommes en guerre ». Alors la guerre, on la connaît dans le sens où on apprend ça à l'école, mais on ne l'a jamais vécue. Et de quelle guerre il parle et contre qui, en sachant que ceux qui commettent des attentats, ce sont des Français. Donc contre qui nous sommes en guerre ? Voilà, ça a été la question. Et donc le travail d'écriture, il est parti de cette chose-là, de cette phrase. Et puis après, j'ai creusé, j'ai voulu continuer dans l'humour noir parce que je l'avais amorcé, puis je l'avais vite abandonné. Donc je me suis dit, ah, mais je vais travailler là-dessus. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que souvent, quand il s'agit de parler de radicalisme ou d'action coup de poing, il y avait quelque chose de l'ordre des pieds nickelés. Si je prends l'exemple, par exemple, du gang de Roubaix, qui est né, je ne sais plus, dans les années 80-90, c'est un des premiers groupes radicaux, en fait, du côté de l'islam. Quand on voit ce qu'ils ont fait, ce sont des bras cassés. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de dégâts matériels, faire péter des trucs, mais ils n'ont jamais rien obtenu, en fait. Il y a d'autres, des films m'ont inspiré, comme We Are For Lions, qui est un film d'un réalisateur anglais dont j'ai perdu le nom, qui met en scène aussi un groupe d'individus qui veulent faire qui vont au en Afghanistan pour se former, et ce sont des bras cassés, et ça crée des choses terribles. Bon, là, ça se passe très très mal à la fin, mais tout est très drôle. Donc je voulais travailler là-dessus, sur la question de l'humour, avec un sujet qui n'est pas drôle du tout, qui est le radicalisme, et d'inverser la tendance, c'est-à-dire au lieu de mettre en scène des jeunes gens qui se radicalisent du côté de l'islam, là ce sont des jeunes gens qui sont, entre guillemets, des petits nationalistes qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils font tout pour défendre leur nation, leur patrie, parce qu'ils sont en guerre, comme l'avait annoncé Emmanuel Valls. Moi, j'ai eu envie de travailler là-dessus, parce que on parle... Il y avait cette chose-là de dire que l'endoctrinement, ou, ça c'est intéressant aussi au niveau des termes. Voilà, si c'est une jeune fille qui va partir en Syrie, on va parler d'endoctrinement. Si c'est un homme, on va parler d'embrigadement. Du coup, il y a un côté militaire pour les hommes et d'un côté beaucoup plus, enfin, au niveau de la doctrine pour les femmes. Et qui ressemble peut-être à des dérives sectaires. Et moi, c'est vrai que je suis un peu passionnée par ça, par les sectes. Je me dis que comment on peut d'un coup se faire happer par une seule et unique personne, par une idéologie, qu'on se fasse manger, grignoter, qu'on n'arrive plus à penser. En fait, l'envie à la base, vraiment, moi je voulais écrire sur un groupe de filles qui partaient en Syrie. Et je me suis vite retrouvée limitée. Bon, il y a eu des attentats où je me suis dit, bon là c'est mort, tu ne peux plus écrire là-dessus, c'est pas le moment et ça sera jamais le moment en fait. Et puis il y avait aussi ce truc-là de dire, ouais, mais qu'est-ce que je raconte en fait? Je ne sais pas trop quoi raconter. Et l'envie était venue de... Il y avait une histoire avec ces... Je dis une histoire, mais ce n'est pas une histoire. Hein. En fait, c'est vrai. De ces deux gamines, trois gamines, trois amies en Angleterre, qui, la dernière fois qu'elles avaient été vues, c'est par une caméra de surveillance dans un aéroport. Et elles sont parties toutes les trois en Syrie. Et moi, je trouvais qu'il y avait un côté Thelma et Louise à l'envers. Thelma et Louise, c'est les deux femmes qui s'émancipent pour... qui quittent leur mari, tout ça, partir en vadrouille. Et là, il y avait cette chose-là, trois gamines qui s'émancipent, mais qui vont vers un endroit où, justement, la question de la liberté n'est pas la même que nous, la liberté dont on parle en Occident, quoi. Tout le temps, la liberté, aujourd'hui, ça a été perverti, c'est un mot perverti, donc on y met tout et n'importe quoi. Et puis, moi, là, comme je disais, j'ai été vite limitée là-dessus parce que je ne savais pas ce que je pouvais dire. Et justement, par rapport au fait de prendre le sujet avec des pincettes, c'est pour ça que finalement, j'ai fait le pas de côté que j'ai fait, c'est de mettre en scène non pas des individus qui se radicalisent du côté de la religion, mais de mettre des individus qui se radicalisent d'un côté d'une idéologie politique, mais sans le vouloir. C'est-à-dire, ils ne le savent pas. Si on leur dirait « vous êtes fasciste, vous êtes nationaliste », ils diraient non. C'est un constat que je fais souvent aussi dans les établissements scolaires dans lesquels je travaille. Quand je dis « là, ce que tu dis, c'est homophobe », ils me disent non. Je dis « si, c'est homophobe, tu utilises le mot pédé, le mot pédale, tu es homophobe, c'est de l'homophobie ». Et ils vont se dire « mais non, pas du tout ». Voilà, de le fait d'avoir ingurgité des mots, de les recracher en oubliant totalement le sens de ce que ça signifie. Et le pas de côté, justement le fait de prendre des pincettes, voilà, ça a été travaillé sur l'inverse, c'est-à-dire sur ce nationalisme que j'ai pu sentir en fait juste après les attentats avec cette phrase « nous sommes en guerre », mais l'ennemi en fait c'est le nôtre, quoi, c'est notre voisin, ce sont des Français. Et voilà, ça a été de travailler là-dessus, sur cette colère grandissante qu'il y a pu avoir, et sur le fait aussi de stigmatiser ceux qui sont musulmans, quoi, et d'abîmer notre regard. Parce que je pense qu'on a tous eu le regard abîmé après les attentats du Bataclan. On se balade en ville et puis quelqu'un qui va porter un niqab ou un hijab de se poser la question si lui cautionne ou pas ce qui s'est produit. Et je pense que voilà, c'était travailler là-dessus, sur cette peur. Sur la peur de l'autre, sur la peur de ce que l'on ne connaît pas, sur ce fantasme de guerre... en sachant que voilà qu'aujourd'hui, ceux qui sont partis rejoindre les amis, ils avaient 20 ans, 30 ans, donc ce sont des jeunes gens qui n'ont jamais connu la guerre, on la connaît que par les livres d'histoire. Voilà, ça a été le pas de côté, il a été de travailler sur autre chose que la religion. Dans le texte, je me suis amusée à travailler sur un champ lexical qui fait toujours référence à quelque chose de précis, sans jamais le nommer. Par exemple, le terme « État islamique » n'est jamais prononcé, le terme « djihadisme » n'est jamais prononcé. Tout le texte a été construit autour de cette image d'obscurantisme. Donc il y a beaucoup d'images de noir, il n'y a plus de lumière. Parce que je voulais aussi que le théâtre soit l'endroit aussi du déplacement de la parole, c'est-à-dire que je ne réutilise pas les mots médiatiques. Donc j'ai travaillé là-dessus, et le terme de meute, on parle souvent de loup solitaire, pour Mohamed Merah, loup solitaire, je ne sais pas si on disait ça pour lui, mais en tout cas, voilà, dès qu'il y a des histoires de radicalisme ou d'actes qui sont liés à l'État islamique, des fois isolés, on parlait de loup solitaire. Et là, l'idée de loup solitaire m'a aidé à composer cette histoire de meute, parce que je mets en scène un groupe d'amis. Ils ne sont que deux, parce qu'ils ont perdu un de leurs copains. Et cette idée de meute qui est construite de façon très précise, c'est-à-dire qu'il y a un mâle dominant, puis il y a le dernier, et le dernier, c'est celui qui se prend tout dans la figure. Le dernier est là, en fait, pour que le groupe reste. Donc à partir de ces données-là, j'ai travaillé sur un qui dirige, l'autre qui prend tout dans la gueule, pour créer des rapports de force, mais aussi pour travailler la question de l'amitié, de la fraternité. Stop. Quand je l'ai écrit, je me disais ça pourrait être des clowns. Des clowns qui tombent dans quelque chose d'assez trash, quoi. Mais aussi de tellement maladroit que du coup, ça en devient drôle. Et là, tout le travail scénique avec Fabien Antonoc a été de travailler cette chose-là, c'est-à-dire de ne pas amplifier la violence du texte, que le texte est quand même très, très âpre, très rude, mais de travailler sur du décalage.
Vous êtes toujours sur Radio Canu avec le théâtre de la Gamelle. Je suis en compagnie de la compagnie Demain, nous fuirons, pour parler du texte de Marilyn Mattei, L'ennemi intérieur. Et on veut donc en savoir plus sur l'histoire de ce texte.
L'histoire du texte. Alors, L'ennemi intérieur, ça raconte l'histoire de cinq personnages qui sont présentés à travers différentes scènes en huis clos. Dans cette pièce, il y a trois sortes de scènes en huis clos. Il y a ce qu'on appelle des scènes qui se passent de cave, qui se passent dans une cave. Des scènes qui ont lieu dans une cellule psychologique, ouverte d'urgence dans un établissement scolaire. Et des scènes qui ont lieu dans un salon. Les cinq personnages évoluent toujours dans ces trois lieux différents. L'histoire commence, un drame s'est déjà passé. Max a disparu. Max, c'est un gamin de 16 ans qui est au lycée avec tous ses camarades et du jour au lendemain, il disparaît. La pièce commence au moment où ses amis, son entourage, le surveillant de l'établissement scolaire, les meilleurs copains reçoivent une notification sur Facebook où ils voient une vidéo où Max a le doigt tendu en l'air et pointe une arme vers un type en orange. On comprend à travers les lignes, dans l'écriture subtile de Marilyn, qu'on a affaire à une vidéo de propagande et que ces personnages la voient. c'est le point de départ de la pièce. Cette vidéo va créer et cristalliser de la peur en chaque personnage. Et cette peur va se matérialiser par un fait très concret. Le surveillant de l'établissement scolaire qui est dans une forme de culpabilité vis-à-vis du départ de ce gamin parce qu'il n'a pas vu sa radicalisation, parce qu'il n'a pas vu cet enfant, entre guillemets, se transformer, changer, développer de nouvelles habitudes. Il décide de prendre sous sa coupe les deux meilleurs copains de ce Max et de kidnapper Selma. Selma, c'est la petite copine de Max et il pense qu'elle se radicalise à son tour.
Pour l'empêcher de se radicaliser.
Exactement. Il la kidnappe pour l'empêcher de se radicaliser. Pour lui faire voir d'autres choses. Donc du coup, il la kidnappe pour la mettre dans une cave et effectuer toute une sorte de cérémonie et de pression et de discours pour la faire changer d'avis, pour la ramener à eux, la ramener dans la lumière, la ramener dans l'amour. Mais comme l'a si bien dit Marilyn, la peur plus le fait que nous ayons affaire à une équipe de bras cassés, beaucoup de choses n'ont pas lieu comme prévu et tout rate. Et rien ne se passe comme prévu. Je ne veux pas non plus, évidemment, dévoiler plus pour peut-être donner aussi envie aux gens de nous rejoindre et de voir ce spectacle. Donc, en effet, il y a plein de moments de surprise qui se découvrent au fur et à mesure de la pièce et qui emmènent les personnages vers des actes radicaux.
Dans leur retranchement.
Dans leur retranchement.
Et Marilyn a parlé d'un duo. Donc, celui qui s'en prend plein la figure et celui qui domine. Qui sont ces personnages? Je m'adresse aux comédiens, bien sûr.
Je t'en prie, c'est toi qui t'en prends plein la gueule.
Donc voilà, donc du coup, c'est moi qui m'en prends plein la gueule.
Tu joues le personnage de Georges?
Je joue Georges, bien évidemment. Le meilleur ami de Max.
Le meilleur, on ne sait pas.
En tout cas, le dernier du groupe de quatre dans lequel il est avec Max, Selma, Georges et Simon, interprété par Jules.
C'est ça, et on est des lycéens de 16 ans.
16-17, ouais.
Et voilà, et au final, il y a un duo qui se fait, qui est embrigadé par aussi notre pion du lycée, Eddie, qui est surveillant de l'établissement scolaire.
Qui est joué par Virgile.
Virgile, mais tout à fait.
Oui, je sais. Oui, donc, oui, moi je joue Eddie, qui est donc le surveillant du lycée, et qui décide un peu de mener cette affaire-là, donc en faisant kidnapper Selma par Georges et Simon. Et en fait, Eddie, oui, se reproche le départ de Max, et il rentre dans une espèce d'engrenage qui fait que son angoisse, sa peur du radicalisme, enfin de... Que Max soit parti et qu'il se soit radicalisé et qu'il ne l'ait pas vu, l'angoisse complètement, et il ne voit plus réellement que lui-même se radicalise, mais en inverse. Et donc du coup, il va devenir comme quelqu'un qui va endoctriner Georges et Simon, puis Selma, pour leur expliquer qu'il ne faut pas se radicaliser, que ce n'est pas bien, que là n'est pas la vie. Et en fait, en faisant ça, il commet pire, puisque c'est en miroir, il propose la même chose que ce que font les gens qui ont radicalisé Max.
Ce qui est intéressant, c'est quand on se rend compte qu'en utilisant finalement les mêmes armes que son ennemi, on finit par devenir comme lui.
Complètement.
Et on se rend compte vraiment aussi des ponts qu'il peut y avoir dans toutes les formes de radicalité, puisque c'est ça aussi que questionne la pièce, c'est qu'est-ce que la radicalité, dans quel sens peut-elle aller, et sous quelle forme elle apparaît. On se rend compte que des ponts et des pratiques sont similaires, que ça soit dans une radicalité ou dans une autre. Finalement, les extrêmes opposés se ressemblent plus que ce qu'on croit, et ont beaucoup plus de points communs que ce qu'ils voudraient aussi s'avouer eux-mêmes.
Et Marilyn parlait de tout son travail de recherche. Est-ce que vous, pour aborder ce texte, autant pour la mise en scène que pour le jeu actorel, comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous êtes allé voir ? J'imagine que vous avez dû suivre Marilyn, parce que Marilyn Mathy est donc aussi dramaturge sur ce projet-là.
Exactement. Marilyn participe aux répétitions. Elle donne son avis, son regard. Elle pose aussi beaucoup de questions pour nous aider à nous diriger dans les bons chemins. Son travail aussi est de m'aider de temps en temps quand on a le devoir de faire un spectacle un peu avec une temporalité plus courte ou qu'il y ait des montages ou des coupures à faire. Elle m'aide aussi à faire ces choix-là et à les orienter pour que nos thématiques restent toujours cohérentes.
Oui, parce qu'ici, au Clocher Céleste, ce sera une étape de travail.
Alors, moi, je dirais plutôt une version de la pièce. Puisque les aléas de la vie fait qu'il nous manque une comédienne sur le projet. Alors on a décidé de ne pas la remplacer par choix pour nous pouvoir s'attarder sur et travailler sur des éléments de la pièce très concrets et travailler la pièce dans son ensemble et montrer quand même quelque chose du début à la fin, mais dans un seul des trois huis clos que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir celui de la cave. Ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette cave.
Donc très intense, j'imagine.
C'est très intense, en effet. Ouais, c'est très intense, mais on travaille ça avec beaucoup de rythme, puisque la notion du rythme est très importante dans cette pièce, pour garder justement une partition qui soit drôle, qui vit au présent. Ça demande beaucoup de travail de la part des acteurs. Je les laisserai parler sur cette question du rythme. La mise en scène aussi s'attache à raconter justement la lumière et l'obscurité. Quand la lumière est là, laquelle ? Quelles sont ces sources lumineuses-là ? On travaille beaucoup dans le noir avec des lumières de téléphone portable, de télé. On travaille aussi sur des lumières assez abstraites qui dessinent les corps, les silhouettes. Oui, et on travaille aussi sur l'humour et l'amour. Ça, c'est vraiment les deux leitmotivs que j'arrête pas de répéter à toute l'équipe pour qu'on puisse aller tous dans la même direction. Parce que pour moi, justement, on n'a pas à faire un kidnapping violent, mais on vient kidnapper cette fille parce qu'on l'aime, parce qu'on veut qu'elle reste. On ne veut pas qu'elle change, on veut la protéger. Et donc, toute l'ambivalence, elle est là-dedans, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller par amour. Et tout ça est raconté avec humour, avec justement des situations décalées dues à cette équipe de bras cassés, et aussi dues à la spontanéité de la réaction de ces différents jeunes, qui aussi amènent beaucoup de plaisir. Voilà, à regarder, à être vu, à être entendu en tout cas.
Et donc tu dis que ce n'est pas forcément violent, mais c'est violent peut-être dans le sens qu'on a attribué à ce mot-là, donc violence qu'on pense tout de suite à une violence physique, mais ça peut être une violence plus psychologique qui reste une violence en elle-même.
Oui, c'est la violence c'est la violence de l'amour quelque part aussi. Ça existe. C'est cette image où on trouve un petit chat si mignon qu'on a envie de le prendre et de l'écraser. Ben, y a un peu quelque chose de cet ordre-là dans la pièce où on aime tellement quelqu'un qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut l'étouffer et le violenter justement pour en pensant le protéger.
Et puis la violence, on l'entend dans le texte, bien sûr, vraiment dans le texte, elle n'est pas forcément dans le jeu des acteurs, entre guillemets.
Oui, c'est pas la direction
que
je donne, en tout cas.
Il y a une réelle... Après, c'est les situations qui sont décalées et qui font que ça en devient comique. Mais par contre, la violence existe réellement dans le texte, dans les paroles qui sont portées et par Eddie et par les autres personnages.
Et toi, justement, comment tu as abordé ton personnage tu disais un personnage de manipulateur ?
Oui, c'est pas évident parce que c'est quelqu'un qui est angoissé, qui a peur, donc forcément qui s'enferme dans une idée, dans une chose, qui n'écoute plus, enfin c'est pas qu'il n'écoute plus, mais il n'entend plus les autres. Dans la version qu'on pourra voir au Clocher Céleste, il n'y a pas sa compagne, Louise, mais Louise essaye de lui faire comprendre qu'il est en train de s'enfermer, mais il est sourd à cette chose-là, il ne l'entend pas. Il a l'impression d'être dans une vérité et d'être dans quelque chose... il a le devoir de sauver ses gamins. Et donc, il n'a plus que cette idée en tête. Et bien évidemment, il va pousser cette idée, cette chose-là, à l'extrême, pour convaincre et pour sauver. Donc pour lui, c'est une parole d'amour, mais en fait, elle se transforme en une violence, mais inouïe, et qui va faire subir et à Georges, et à Simon, et à Louise aussi, et à sa compagne. Mais c'est l'angoisse qui fait qu'il ne contrôle plus sa pensée. Il est dans une pensée unique, il n'arrive plus à avoir de recul par rapport à ça. Il est vraiment, il le dit, hein, nous sommes en guerre, il est en guerre.
Et tu parles d'angoisse, et justement, j'ai l'impression que le thème sous-jacent et qui englobe toutes ces pièces, c'est la peur.
Bien sûr.
Et il y a une division entre les... Dans le texte, il y a une division par chapitre, ou enfin par partie, et une partie qui s'appelle...
Not afraid.
Et on profite pour écouter justement Eminem qui nous donne sa version de
Not Afraid.
Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out. Follow me. I consider it. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em. But you won't take the sting out these words before I say 'em. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If it thinks it's stopping me, I'm gonna be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans of us don't try to ask him why. From infinite town to the last relapse album, he's still sitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he battles out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game. Like a fuck you for Christmas, his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe.
Vous êtes toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle. Je suis avec la compagnie Demain nous fuirons qui vient nous parler de L'ennemi intérieur, un texte de Marilyn Mattei. Et ils vont nous proposer la lecture du prologue du texte. Allez-y les gars.
Banco.
Georges et Simon dans leurs chambres respectives. Eddie dans son salon. Son d'une télé en marche.
Minuit, je dors pas. Plus possible de fermer l'œil depuis que t'es parti. Dans mon lit, je mate la carte du monde au-dessus de mon bureau. Me demande s'il y a encore de la possibilité de se trouver un lopin de terre oublié, pas abîmé, pas habité, loin de tout, coin de paradis.
En campagne, sur une map de 100 joueurs, j'affronte l'ennemi. Je me camoufle, je cours, M16 dans les bras, snipe sur le dos. Je me trouve une planque à l'intérieur d'une baraque. Un type de dos tient une calage. À pas de loup, j'avance, sors un couteau, chope le chien de l'enfer par derrière, tchac, le cou, je tranche dans le vif.
Canapé face au mur, spliff dans la main droite, mal de crâne, tornade en dedans la tête, interrogation qui tourne en boucle, la faire taire avec le spliff. Je ferme les yeux, tire trois fois, mitraillette, j'avale.
Je mate les océans. Les mers, les continents. Me demande c'est quoi que t'aimerais le mieux. Me demande si c'est l'Est que t'aimerais viser, ou l'Ouest, ou le Nord, ou le Sud. Me demande si tu serais dans le kiff de marcher sur de la neige, de la glace, se prendre le vent, le froid, ou de marcher sur le sable, les galets, la mer, et se taper le chaud du ciel.
Je sors, j'avance, je cours. Dans mon oreille, on me dit qu'un frère est blessé. Je le cherche. Je tire. Bam ! Je mitraille. Ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Je trouve le frère d'armes, la jambe en charpie. Je vais pour le sauver, le traîner, le mettre à l'abri, mais une putain de belette me troue le bras. Je titube. Je bascule. Je me planque derrière une roche. Je fais appel à mes potes.
Sauvez-moi les gars!
Je dis. L'hélico tourne au-dessus de ma tête.
Canapé face au mur, spliff dans la main droite encore. Désenfumer ce que j'ai dans le crâne en aspirant celle du spliff d'un coup sec. Je ferme les yeux, je tire, je garde. Fumée dans la bouche, je compte jusqu'à 3. 1. L'interrogation tourne. 2. L'interrogation s'accroche. 3. L'interrogation bombarde. 1, 2, 3. J'avale, je me brûle, je tousse. Ça grésille dans mon oreille.
Et mon œil se tire de la map monde, va vers la droite, et je me fais happer tout en entier par le dernier selfie de nous quatre. Nous dans le parc. Sur notre banc, à nous. Notre arbre, derrière. La belle Selma de la lumière dans l'œil en gros plan, avec toi bien collé serré. La belle bouche de la Selma sur ta joue. Toi et ton regard qui fusille l'objectif. Le Simon derrière qui fait le fuck avec sa main gauche, et moi, écrasé. Le visage coupé en deux, mais quand même là.
Toujours planqué derrière la roche, ça explose de tous les côtés. L'hélico tourne en boucle au-dessus de ma tête, tire partout, bam, vise des bagnoles, bam, boule de feu dans l'air. Je panique. Je vois ma vitalité qui se tire, le sang qui coule, et mes potes de guilde clignotent en rouge sur le schéma de la map en bas à droite de l'écran. Ils me disent « On avance, on arrive, bouge pas ». Je tente de poursuivre la bataille, de sauvegarder notre territoire, de faire reculer l'ennemi. Mais le bras à la tremblote de la balle prise et me défendre plus possible.
Canapé face au mur, spliff dans la main droite, toujours. Index de ma main gauche dans l'oreille, je gratte. Ça ne passe pas. Je continue de gratter, ça ne passe pas. J'ai comme une mouche coincée, je racle le fond, le tréfond, l'interne. Ça ne passe pas. Le grésillement insiste, je secoue ma tête de droite à gauche. Ça ne passe pas. Je frotte la tempe droite, le grésillement résiste. Je frotte ma tempe gauche, le grésillement s'accroche, ça cogne dans ma tête.
T'es où, Max? T'es parti où pour de vrai? Tu penses à nous là où t'es? C'est quoi ta planque? C'est où ta planque? Tu te planques? Tu fais quoi? Tu penses à quoi? Tu t'es tiré, on t'a enlevé, on t'a fait quoi, Max? Voilà que je cause comme un con tout seul. Et que lâcher le selfie, pas possible. Je bloque sur nos petites gueules, nos sourires, le blanc de nos dents qui éclate. Et me demande s'il y a encore de la possibilité de revivre ce moment pour de vrai. Ce moment où on était quatre. Ce moment où t'étais encore là, Max. Ou si c'est que du souvenir bloqué sur papier A4 qui brille.
Mes frères d'armes arrivent. Me soignent. Me remettent debout. Ne tremble pas, je me dis. Je marche. Je cours. J'avance. Je recule pas. Je cours. J'avance. Je me planque. Viseur enclenché. Œil de lynx en place. Snipe chargé. Le front de l'ennemi, je vise. Là, au milieu du front. Et BAM!
J'ai un nid de mouche dans la cervelle, scotché là où l'interrogation tourne. Me tape la tempe droite, la tempe gauche, le haut du crâne, l'oreille droite, l'oreille gauche. Ça grésille toujours, ça fait mal.
Je pense à notre coin de paradis qu'on aimerait se trouver. Notre cabane qu'on aimerait se construire. Je pense à nous avant, je pense à nous maintenant. L'image se trouble.
Et ça gicle comme il faut que ça gicle, Max.
Me gratte le crâne, me gratte le derrière de ma nuque, me gratte le crâne à deux mains, me racle la peau, me plante les ongles, arracher cette putain d'interrogation, ça que je voudrais.
Je chiale comme un con.
Je recharge le snipe, œil de lynx en place, je vise le milieu du front. Bam.
Quelle est ma place dans le monde?
C'était cool quand t'étais là, Max.
Ça gicle comme il faut que ça gicle, Max.
Quelle est ma place dans le monde?
Avec Selma, Simon et moi.
L'ennemi jette là-bas en moins de deux. Ça gicle, comme il faut que ça gicle, Max.
Et ça bip. Je décolle mes yeux du papier A4 glacé.
Je quitte mes potes de guerre, mon terrain de combat.
Je lâche le mur que je fixais, écrase le reste du spliff dans le sandard.
Notification, vidéo de Max.
Vidéo de Max, diffusée par Max.
Max?
Le Max?
Oh putain.
Le premier sur notre groupe de 4.
Notre pote?
Bordel.
T'es vivant?
Merde.
Casque sur les oreilles.
Sonic Master à fond.
Volume 100.
Play.
Oh. Putain de bordel de merde.
Waouh, merci. Merci pour cette lecture. Donc c'était le prologue de l'ennemi intérieur. Donc il y a trois monologues qui s'articulent, trois portraits. Comment vous êtes entrés dans ces trois mondes différents, parce que c'est vraiment trois mondes différents, très distincts, qui vont se retrouver après ensemble, j'imagine, pour la trame de la pièce. Mais
Alors, c'est trois mondes différents. En effet, alors, la particularité de cette pièce, c'est qu'il y a en effet un prologue et un épilogue qui ont une écriture un tout petit peu différente du reste de la pièce. Dans le centre de la pièce, les différentes scènes sont plutôt des dialogues vifs et rythmés, très rapides, avec des mouvements plus ou moins longs. Alors que le prologue et l'épilogue sont plus finalement des portraits, des monologues entrecroisés qui se répondent, se confondent, entrent en écho les uns avec les autres et présentent les personnages avec un discours un peu plus poétique qui peut aussi donner accès à des choses qui se passent à l'intérieur d'eux, dans leur tête, leurs différentes expectatives, leurs rêves. Alors que le centre de la pièce est plus nerveux, plus dans l'action. Que dire de ce prologue ? Il présente en tout cas les trois personnages masculins assez bien. On a un Georges, le dernier, donc notre petit, comment on pourrait l'appeler, notre petit souffre-douleur du groupe.
Exactement.
Avec qui a une parole.
Le dernier de la meute.
Exactement, le dernier de cette meute. Georges qui a un discours poétique, qui porte aussi la dramaturgie de l'ombre et de la lumière, qui raconte l'absence de Max avec sa sensibilité, son rapport au monde un peu singulier. On a le personnage de Simon, qui était plutôt le bras droit du Max qui a disparu, qui du coup, a fortiori après le départ de ce Max-là, va prendre sa place quelque part, la place du chef. Lui, il est dans un discours un peu plus... alors là, on est du coup dans ce prologue sur la question du jeu vidéo. Et ce qui nous intéresse dans le travail avec Jules qui interprète Simon, c'est comment justement un gamin qui joue au jeu vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu vidéo qui peut aussi nous raconter la guerre, déraper sur ces questions-là. La question aussi des médias et des images qui nourrissent nos yeux et nos oreilles à longueur de journée. C'est aussi une direction que j'ai prise dans la mise en scène pour traverser ces prologues-là.
On a le regard abîmé, comme elle disait Marilyn.
Oui, c'est beau, le regard abîmé. Elle parle toujours très bien. L'image se trouble, si on peut citer aussi un peu une phrase de la pièce. En effet, c'est un regard abîmé par ce flot médiatique, ce flot d'images, ce flot de violence qui s'acharne sur ces personnages, mais sur chacun d'entre nous, en vérité. Et ce que j'aime aussi à montrer dans la mise en scène, c'est comment finalement ces images dont on parle continuellement dans la pièce et qu'on décide de ne jamais montrer, et dans le texte et dans la mise en scène, comment ces images nourrissent les actions, les pensées, et comment ces images aident à radicaliser les personnages à leur endroit. Voilà. Quand les médias racontent, comment dire, qu'un cas peut devenir une généralité, ben forcément, on entre dans des amalgames. Et ces amalgames-là, c'est tout à fait ça qui se passe à l'intérieur de ces personnages-là. Ils prennent ça, ils prennent ce flot d'images avec violence et ils réagissent. Voilà. Donc dans ce prologue, on assiste, comme vous l'avez entendu, à l'instant juste d'avant, avoir le moment où on a des nouvelles de Max, voilà, qui est parti au bord du monde, pour ne pas citer l'État islamique. Même si on comprendra que dans l'ennemi intérieur, on sait de quoi on parle, grâce aux initiales de la pièce. Voilà, Max est parti au bord du monde, il reçoit cette notification, donc du coup, un nouveau drame se joue. C'est-à-dire que voilà, son absence est concrétisée, on sait où il est, ce qu'il fait, et du coup, ça permet aux différents personnages de se positionner.
Et en plus, ces personnages sont des, enfin, la plupart des personnages sont des adolescents.
Des adolescents ou de jeunes
période,
adultes.
Une période qui peut parfois être compliquée dans la construction de son identité ou de ses identités.
Oui, on se cherche à cet âge.
Oui. Et il y a le rapport à l'image qui est extrêmement important justement dans cette construction. Et dans la pièce, c'est ce qu'on ressent. Enfin, De base, pour embrigader, c'est principalement sur Internet que ça se passe, avec beaucoup d'images. Et pendant toute la pièce, ces images reviennent, c'est-à-dire Georges va regarder cette vidéo, Eddie aussi, là c'est ce qui se passe. Et même moi, alors moi c'est Simon dans la pièce, j'analyse la vidéo en disant qu'en fait, bah, là c'est un fond vert parce que c'est pas possible. Enfin, de dire aussi qu'il y a toute une culture de l'image que de l'autre côté c'est maîtrisé. Et que chez nous aussi, dans certains points, enfin, comment, pour la construction des adolescents, pour la construction de notre culture, pour la construction de tout mouvement politique, pour tout, l'image, c'est essentiel et ça se passe tout là-dedans et à quel point ça marque les humains et ça marque leur pulsion violente, leur pulsion d'amour. C'est, on reproduit des clichés et on reproduit les émotions que ça nous prodigue dans les vidéos, on les reproduit aussi dans la vraie vie. Et c'est important chez des ados, quand on regarde des enfants, ils jouent à la guéguerre, c'est pas naturellement, ça vient pas d'eux-mêmes. Quand ils naissent bébés, ils ont pas l'instinct de guéguerre. C'est qu'il y a dans la culture de la guéguerre qui traîne. Enfin, il y a des pulsions violentes. Je vois, on le voit pas, Fabien a hoché de la tête en disant ouais, ouais, ouais. Mais que comment la culture nous façonne, et là c'est essentiel ici, bien parce sûr. Que c'est toute la culture.
Bien sûr, puis l'adolescence c'est vraiment une période charnière où on questionne son identité, ouais. Sa place dans le monde. Où on est fragile aussi sur tous les sujets, parce qu'on prend la vie dans son entièreté et que du coup il n'y a pas de demi-mesure, on vit les choses à fond quelque part, donc on vit les moments de bonheur à fond, mais aussi les moments plus troublants, les moments de malheur, on les vit aussi à fond dans cette période de construction. Et cette période vraiment décisive aussi pour le cheminement de la vie adulte, quelque part, l'adolescence, elle est à cet endroit-là, dans la construction de sa citoyenneté, de son rapport au monde, de son rapport aux autres.
Et je rajoute même qu'il n'y a pas que les adolescents qui se construisent, parce qu'on découvre aussi que Eddie cherche sa place dans le monde, ça revient souvent, Louise questionne aussi, et donc en fait, même les adultes n'ont pas la réponse.
Et vous avez travaillé avec des adolescents ou des adolescentes ?
Bien sûr, la pièce, déjà, elle cherche à s'adresser à des adolescents et des adolescentes, à des lycéens principalement. Donc, dans l'adresse, forcément, nous, dans la mise en scène, on travaille aussi à faire écho à cette génération, à leur raconter quelque chose de concret à eux. Donc, on travaille aussi sur des énergies de la jeunesse et des choses qui pourraient intéresser la jeunesse actuelle, les citoyens de demain. Quelle était la question déjà ?
Si vous aviez travaillé avec des adolescents.
Et on a travaillé en effet avec des adolescents, oui. Notamment quand nous sommes partis en Charente, travailler, répéter à la Maison Maria Cazares, à Alou.
Qu'est-ce que la Maison Maria Cazares ?
Alors la Maison Maria Cazares, c'est aujourd'hui un espace de résidence et de jeu, de spectacle. C'est la maison de la comédienne Maria Cazares. Qu'elle a légué à la ville d'Alou, et cette ville-là a décidé de faire de sa maison un lieu artistique où on accueille de jeunes compagnies, et nous avons participé l'année dernière au dispositif Jeunes Pousses, un dispositif qui est organisé et dirigé par Mathieu Roy et Johanna Schilberstein de la compagnie du Veilleur. Ils nous ont accueillis au sein de la Maison Maria Cazares, où on a pu répéter, travailler un mois et présenter un extrait du projet au public des Charentes et aux professionnels.
Très bien. Et je vous propose d'écouter le dernier personnage qu'on n'a pas encore écouté, oui. Donc Selma.
Selma.
La magnifique Selma.
Oui.
Je pars, je marche, j'avance. Pas s'arrêter, marcher, courir. Je sais pas où je suis, je m'en fous. J'avance, j'avance. Et je me retrouve là où tout a commencé. Parc. Banc. Arbre. À la pointe du compas, c'est toute une histoire qui est grattée sur ce banc. Je le lâche pas des yeux. Je bloque dessus. Je revois Simon et Georges jouer à la bagarre. Je revois Selma et Max accrochés l'un à l'autre. Je les revois tous les quatre, le blanc de leurs dents qui te dit bonjour, et je me revois les regarder et m'imaginer être cette fille. Cette Selma au milieu de ces trois gars. Cette fille qui faisait partie du groupe de quatre. Être dans les bras de Max. Je m'assois. Et j'ouvre le journal et je lis. Je lis les titres. Je lis que l'humanité vit à crédit, qu'un laboratoire pharmaceutique est mis en procès, que des migrants se sont encore noyés, qu'un SDF a pris 3 mois ferme pour un vol de yaourt, que les frappes en Syrie ont tué je ne sais combien de civils, qu'une personne sur 4 est pour la torture, qu'un logiciel espionne les États, qu'une femme a fait sécher son chat au micro-ondes, qu'une personne sur 4 est pour la peine de mort, que la mère de Max a cru que c'était une blague, que ma disparition est inquiétante. Je me demande s'il y a encore la possibilité de se trouver un bout de terre oublié, pas habité, pas abîmé, loin de tout, coin de paradis, ou si c'est l'espace qu'il faudrait viser. Une cabane en bois sur la lune, un truc comme ça. Et je déchire le journal, j'en fais des morceaux, je les mâche, ça a un sacré goût de merde, je m'accroche, je mâche. J'avale, ça passe mal. J'insiste, ça passe et je me dis, je vais tout chier dans un coin, ça va me faire du bien. Puis je ferme les yeux. Comme ça que tout a commencé. Moi, yeux fermés sur le banc de Simon, Max, Selma, Georges, sur leur territoire, comme ils disaient. Je ferme les yeux et je dis « Max, Max, Max. »
Merci à Pauline Estienne de la compagnie Demain nous fuirons qui a bien voulu donc lire, c'est donc l'épilogue.
Un extrait de l'épilogue, exactement. Épilogue qui se construit comme le prologue avec des monologues qui s'entrecroisent et se mélangent.
Épilogue de l'ennemi intérieur qui sera présenté où ?
Au théâtre des Clochards Célestes, où on a été superbement accueillis en résidence. On joue à partir du 9 octobre jusqu'au 20, tous les soirs de la semaine à 19h30, sauf le mardi, et le week-end, samedi et dimanche, à 16h30.
Et vous allez faire aussi des rencontres avec les publics, avec des scolaires.
On accueille en effet plusieurs lycées qui vont venir nous regarder pendant des représentations scolaires. Ce sera aussi l'occasion pour nous de discuter avec eux à la fin du spectacle, de voir et de leur poser des questions, qu'ils puissent aussi nous poser des questions, qu'il y ait un échange aussi sur cette question-là, sur ces questions-là. Puisque c'est aussi la volonté de cette pièce, c'est de l'ouvrir à la jeunesse et d'en faire un objet de débat et de discussion qui passe par le prisme du théâtre pour raconter la société et nos êtres.
Et le projet ensuite va retourner à Marseille ?
Le projet ensuite retourne à Marseille, en effet. On continue notre aventure en janvier au Théâtre Joliette à Marseille.
Et je me permets de citer Marilyn Mathilly, qui donc a déjà écrit une suite à ce texte qui s'appelle « Et après », qui a été également présenté au Festival En Acte l'année dernière. Et elle donc cette suite était autour de ceux et celles qui étaient revenus.
Les repentis, tout à fait.
Et elle envisage l'écriture d'un troisième texte autour de ceux et celles qui sont restés et qui sont morts là-bas. Et de ce décalage avec l'administration française sur lequel ils sont encore vivants en France et la mort au sein de l'État islamique n'est pas reconnue en France. Donc comment faire le deuil impossible ? Elle envisageait de faire un parallèle avec la figure d'Antigone. Et ça, on ne sait pas encore quand ça sera créé.
Exactement, on lui laisse aussi le temps de construire tout ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Je rappelle donc L'ennemi intérieur de Marilyn Mathilly par la compagnie Demain nous fuirons. Au studio, il y avait Fabien Antenoc, Virgile Coignard, Jules Robin et Alexis Tolombert. Ça sera présenté au Clochard Céleste du 9 au 20 octobre. On vous invite à y aller.
Ben, venez nombreux.
Venez découvrir l'écriture superbe de Marilyn Mathilly et ma superbe équipe de comédiens. Voilà, on vous embarque sur ces thématiques.
Très bien. Et juste avant de terminer l'émission, un rapide point agenda. Car nous avons parlé du festival En Acte, justement, la moisson 2019 est arrivée. Elle sera présentée au NTH8 à partir de la semaine prochaine et au Théâtre de l'Élysée à partir du 14 octobre sera présentée la trilogie autour de textes de Pinter mis en scène par Benoît Martin. Je vous invite à y aller, c'est au Théâtre de l'Élysée. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires.
Noble. Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
C'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.